Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Bria Savarin. Bria Savarin, né dans l'Ain en 1755, à Belley précisément, mort à Paris en 1826. Le gastronome français, l'auteur bien sûr de La physiologie du goût. Attention, donnons le titre exact et entier, La physiologie du goût ou Méditation de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour dédié au gastronome parisien par un professeur membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Fin du titre. Ce n'est pas à Belley, ce n'est pas à Paris que commencera la conférence donnée par James de Coquet à propos de Bria Savarin, que commencera l'évocation de ce gastronome, son vrai nom Jean-Anthelme Bria Savarin, mais en Inde, où l'on découvrira la tartelette cheese Bria Savarin. Quelques phrases à retenir. Quand on compose un menu, on doit veiller à ce que ce menu ne soit pas monochrome. Le meilleur convive est celui qui sait philosopher avec les mets dont on le régale. Et puis, vous apprendrez aussi que Bria Savarin est l'inventeur du mot « siroter » et qu'il est mort sous la Restauration, évidemment. Grande conférence, première diffusion sur France Culture le 16 mars 1964.
Et voici notre émission « Les grandes conférences ». Aujourd'hui, conférence de l'Université des Annales, « Bria Savarin et les plaisirs de la table » par James de Coquet.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais d'abord vous dire dans quelles circonstances je me suis senti attiré par Bria Savarin. C'était en 1948 et l'Inde venait de se partager en deux, d'éclater littéralement, ce qui avait fait un véritable bouleversement qui s'était soldé d'ailleurs par 1,5 million de morts. Sur ces 1,5 million de morts, d'ailleurs, on ne comptait que deux Anglais, ce qui prouve que les Anglais sont beaucoup plus forts que nous pour filer à l'anglaise. À cette époque, le Cachemire ne savait pas de quel côté il allait aller, s'il allait aller du côté de l'Inde ou du côté du Pakistan, et des troupes venaient d'y éclater, des troupes qui d'ailleurs durent encore à l'heure actuelle. Alors j'étais allé voir. Srinagar, qui est la capitale du Cachemire, est un véritable paradis. Et je ne suis pas du tout étonné qu'on y retrouve tout dernièrement le cheveu de Mahomet. Vous savez d'ailleurs que le cheveu joue un grand rôle dans la religion musulmane, parce que c'est par les cheveux qu'Allah vous attire dans son paradis, de telle sorte qu'il est absolument interdit à M. Yul Brynner d'y entrer jamais. Les Anglais avaient coutume de passer leur été à Srinagar. Ils habitaient sur des houseboats qu'on tirait lentement sur des méandres de bras de rivière, sur des canaux, ou bien ils habitaient au palace de l'endroit qui s'appelle le Nehru's Hotel et qui était un endroit qui, déjà en 1948, était extrêmement confortable. Il était doté de tout le confort moderne. Je veux dire que quand on tirait une sonnette comme il y en a dans les comédies de la biche, eh bien on pouvait commander son bain. Et alors aussitôt, il y avait une armée d'intouchables qui arrivait, qui déversait de l'eau chaude dans votre baignoire. Il y avait aussi naturellement, dans cette salle de bain, il y avait la petite commodité que vous devinez, et c'était une chaise percée. Et je crois que c'était certainement les dernières qui aient été en usage dans le monde. Et elles ont eu beaucoup d'intérêt pour les Anglais parce que quand un commis de l'Indian Civil Service était assis là-dessus, eh bien, il se prenait un peu pour la reine Victoria et ça a fait beaucoup pour la grandeur de l'Angleterre. Tout cela semble nous éloigner un petit peu de Bria Savarin, mais vous allez voir que nous allons y arriver. Le soir, on est 12 hôtels. Naturellement, on s'habillait pour le dîner. Mais comme toute l'Inde était à feu et à sang, il y avait très peu de monde. Il y avait ce soir-là, il y avait trois vieilles dames qui étaient en robe du soir, et puis il y avait deux vieux messieurs qui étaient en dinner jacket, et puis il y avait moi qui avais mis ce qui se rapprochait le plus d'un smoking. Et pour nous servir, il y avait naturellement une centaine de domestiques enturbanés qui portaient sur la poitrine les armes de l'Angleterre, on y soit qui mal y pense. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que des oiseaux traversaient la salle à manger. Il faut vous dire qu'aux Indes, comme il fait très chaud, alors tout est ouvert, et comme d'autre part, personne ne tue jamais un oiseau, alors ils sont extrêmement familiers, et les oiseaux voltaient à travers cette salle à manger, de telle sorte que ces vieilles gens en robe du soir, ces oiseaux qui voltaient, tous ces serviteurs enturbanés, tout ça, ça avait l'air un petit peu d'un dîner de fantômes, et on se disait que si un oiseau touchait de son aile un des dîneurs, il allait s'effondrer en poussière. Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Comme il est d'usage naturellement dans un palace, le menu était en français, enfin il essayait de l'être. Et je me souviens que le premier plat qui suivait le potage Saint-Germain s'intitulait « Cheese Tartlet Bria Savarin ». Qu'est-ce que valaient ces cheese tartlets? Je n'ai pas besoin de vous dire que je l'ai complètement oublié, elles étaient probablement très mauvaises. Mais tout de même, il y avait une chose qui me fit rêver. Un continent était dans les convulsions, un empire était en train de disparaître, il y avait une certaine notion de la vie qui s'effaçait dans ce coin du monde, mais Bria Savarin, imperturbablement, restait là et on continuait à se réclamer de lui. Et je trouvais merveilleux tout de même que ce nom de Bria Savarin fût parvenu jusque sur les premiers contreforts de l'Himalaya et qu'il y résista à toutes les tourmentes. Eh bien, dans le monde entier, il est entendu que ce qui est délectable est français. Grâce à qui? Grâce à Bria Savarin. Évidemment, il y a d'autres Français qui ont à leur actif des plus grands exploits. Mais il y en a peu qui en aient d'aussi durables. Et cela mérite qu'on s'arrête un petit peu pour étudier la vie de cet ambassadeur qui est mort depuis près d'un siècle et demi et dont l'ambassade continue. Eh bien, si vous le voulez bien, c'est ce que nous allons faire. Bria Savarin est né en 1755, le 1er avril, et il est né à Belley, dans l'Ain. Ça ne s'appelait pas l'Ain à l'époque, naturellement, ça s'appelait Le Bugey. Et Belley est une petite ville spacieuse et aérée, et qui s'enorgueillit d'un passé très ancien, puisqu'elle prétend tirer son nom du guerrier Bellovèse, qui vivait 600 ans avant Jésus-Christ. C'est là que se reposèrent, soi-disant, les armées de César. Lorsque le jeune Anthelme a 10 ans, on le met au collège des Antonins, qui est un établissement ultramoderne, qui vient d'être fondé et qui deviendra très célèbre par la suite, car il verra sur ses bancs un autre élève prédestiné, Alphonse de Lamartine. Dans ce collège, Bria Savarin apprendra le latin, l'histoire, les belles lettres, mais il apprendra aussi la musique, l'art de jouer la comédie, car les bons pères ont pour règle que la vie doit être partagée entre des travaux utiles et des plaisirs décents. Serait-ce indécent que d'aimer la bonne chère? Pas le moins du monde. Et de même que c'est une visitandine qui lui a appris à aimer le chocolat au lait, c'est un jésuite qui va lui apprendre à déguster les becs figues. Le père Fabi, de la compagnie de Jésus, arrivait à Belley le 1er septembre, qui est justement l'époque des premiers passages de Beckfig. Dès qu'on en avait pris quelques brochettes, on invitait le père, qui avait une façon bien à lui de les manger. Il les prenait par le bec, il les saupoudrait d'un petit peu de sel, et il les enfournait dans sa bouche, comme ça. Et d'un coup de dent, il leur coupait la tête au ras du col. En outre, pour ne rien perdre de leur parfum, il se mettait une serviette sur la tête. Et quand il avait fini de mastiquer ses becs figues et qu'il recrachait discrètement les petits os qui auraient pu lui perforer l'estomac, le père Fabi constatait « c'est un plaisir inconnu du vulgaire ». Eh bien, ce religieux était si compétent sur les becs figues qu'il pouvait dire s'ils avaient été pris par vent du nord ou par vent du sud. Eh bien, c'était d'ailleurs très facile. Quand le vent est propice aux migrations, les oiseaux volent à tire-d'aile et ils sont maigres. Si le vent est contraire, les petits migrateurs sont obligés de couper leur voyage. À l'étape, ils font ce que nous faisons tous, ils se restaurent. Et alors, ils en sont que meilleurs. Et quand c'était un civet lièvre qui paraissait sur la table, aussitôt une grave discussion s'instaurait entre les convives. Le lièvre est-il meilleur s'il a été tué au déboulé ou s'il a couru pendant une heure ? Il faut l'avoir eu au déboulé, disait l'un, pour qu'il garde tout son bouquet. Sans quoi les angoisses lui tournent le sang et la fatigue de la course lui fait perdre toute sa graisse. Il n'est plus que du muscle et des os. Ah, mais pardon, 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 répliquait le père Fabie. Mais la course, c'est l'exercice naturel du lièvre. Et la peur, c'est son état habituel, comme la sainteté est le mien. Donc, quand on lui fait peur, quand on le fait courir, on l'entretient dans ses habitudes et il n'en est que meilleur. C'est comme si on me mangeait, moi, après avoir montré le diable. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le père Fabie, qui était si familiarisé avec les becs-figues, avec les lièvres et avec le diable, a terminé sa carrière ecclésiastique comme pénitencier à Rome. Ce qui prouve bien que la science gastronomique n'exclut ni la sainteté ni les autres sciences. À 16 ans, Brillat Savarin avait déjà appris quelques préceptes de gastronomie. Il avait découvert que lorsqu'on a commencé à discuter à propos d'un plat, on en vient tout naturellement aux idées générales et que le meilleur convive n'est pas seulement celui qui a une bonne fourchette, mais celui qui sait philosopher avec les mets dont on le régale. Malgré son jeune âge, il est déjà en mesure de faire bonne figure à n'importe quelle table. Son père l'envoie à Dijon, qui est une ville où il y a de la bonne chair et beaucoup de bonne compagnie. Il va y étudier le droit pendant 4 ans, après quoi il revient au pays où sa famille lui achète une charge de lieutenant civil au bagage de Belley. Charge qu'il va bientôt délaisser pour prendre un cabinet d'avocat. Eh bien, il est facile d'imaginer ce qu'a pu être la vie du jeune Brillat Savarin dans cette période. Il appartient à une famille estimée, il a l'appétit de la vie, mais ses ambitions sont mesurées. C'est un sage. Il brille un petit peu au barreau de sa bonne ville de Belley, il chasse, il pêche, il se régale avec des amis des truites de l'Albarine, il mange aussi des perdrix qu'on sert sur des canapés de choux et des cailles qui sont relevées par des grains de genièvre, le tout arrosé d'excellents vins qui vient du domaine familial. À ces dîners, on parle beaucoup de politique, naturellement, c'est un sujet très à la mode. Brillat Savarin est ouvert à ce qu'on appelle les idées nouvelles. Les idées nouvelles, c'est celles que nos parents ont eues avant nous, mais qu'ils n'ont pas mises en pratique parce qu'ils en ont vu les inconvénients. Brillat Savarin, lui, était partisan de la liberté sans licence, de l'égalité devant la loi et de l'indépendance des tribunaux. Tout en découpant une volaille, il aimait exposer les grands principes qui font la stabilité des gouvernements. Et ses convives l'écoutaient. Il est à remarquer, en effet, que la politique, lorsqu'elle est exempte de passion qui contracte l'estomac et qui tarisse les sucs gastriques, eh bien, la politique est un excellent adjuvant de l'appétit, et c'est d'ailleurs pourquoi il y a tellement de banquets politiques. Cet homme qui aime tant la bonne chair et qui a tant de compétences en la matière répugnera toujours à faire de la gastronomie son métier. Il veut rester un amateur. Pour gagner sa vie pendant les 3 ans qu'il va passer à New York, il va donner des leçons de français et il jouera de la flûte dans les concerts, la flûte qu'il a apprise à jouer chez les bons pères Antonin. Vous voyez que ça sert d'être élevé chez les bons pères. Sous le directoire, des amis le font rayer de la liste des émigrés. Il rentre en France, où il va retrouver bientôt son siège de conseiller à la cour. Eh bien, désormais, il va mener une vie toute unie. Il sera un magistrat exerçant une double magistrature. Le jour, il siège dans le prétoire et le soir, il siège à table, soit chez lui, soit chez des amis, et il rend des arrêts sans appel. Bien entendu, il continue d'écrire, mais ne croyez pas un instant qu'il écrive des propos de table. Pas du tout. Voilà les ouvrages qu'il a en chantier, « Vues et projets d'économie politique », Essai historique et critique sur le duel, l'archéologie dans le département de l'Ain. Ce sont des ouvrages extrêmement sérieux, mais il faut bien convenir que si Brillat Savarin s'était cantonné dans ce genre de littérature, nous ne serions pas aujourd'hui en train de parler de lui. Mais le soir, quand il rentre chez lui, il note sur un calepin les réflexions que lui inspire le dîner auquel il a assisté. Est-ce que le menu était bien composé, les vins bien choisis, les sièges confortables, les convives spirituels, les femmes jolies et élégantes? Eh bien, si la réponse est oui à toutes ces questions, Brillat Savarin note sur ses tablettes « Convier quelqu'un à dîner, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps où il est sous votre toit. » Ce qui est vrai, d'ailleurs. Ce gourmand sait goûter les choses avec tous ses sens, et quand il nous part de la caille, il nous dit que c'est le gibier le plus mignon et le plus aimable, et qu'elle plaît à la fois par son goût, sa forme et sa couleur. Tandis qu'il était aux États-Unis, Brillat Savarin a été frappé par un mot de la langue anglaise qui n'a pas d'équivalent en français, qui est le verbe « to sip », qui signifie « boire à petite gorgée ». Il va donc fabriquer un néologisme qui fera fortune, et c'est le verbe « siroter ». Le verbe « siroter », nous le devons à Brillat Savarin. Eh bien, Brillat Savarin, en même temps qu'il sirote des boissons, sirote aussi, si l'on peut dire, avec sa plume, je veux dire qu'il inscrit des petites notations, et c'est ça qui va constituer son œuvre. Mais il ne songe pas un seul instant à la publier, et il faudra même l'insistance d'un de ses amis pour qu'il donne son manuscrit à un éditeur, et naturellement, cet éditeur le refusera. Piqué au jeu, l'auteur se décide à publier le livre à son compte, et ce sera cette physiologie du goût qui va rencontrer un éclatant succès et qui, de nos jours encore, tout le monde connaît, sans pour autant l'avoir lu d'ailleurs. Comme vous n'avez peut-être pas l'intention de combler cette lacune en sortant d'ici, je vais vous dire ce qu'il y a d'essentiel dans cet ouvrage. Cela tient en très peu de mots. C'est ce passage. S'il est permis de se porter par l'imagination jusqu'au premier moment de l'existence du genre humain, il est aussi permis de croire que les premières sensations ont été purement directes, c'est-à-dire qu'on a vu sans précision, oui, confusément, flairer sans choix et manger sans savourer. Mais toutes ces sensations ayant pour centre commun l'âme, attribut spécial de l'espèce humaine et cause toujours active de perfectibilité, elles ont été réfléchies, comparées et jugées, et bientôt tous les sens ont été amenés au secours les uns des autres pour l'utilité et le bien-être du moi sensitif ou, ce qui est la même chose, de l'individu. Je ne vous dirai pas que ce passage est un chef-d'œuvre de clarté, non. Mais il est remarquable en ceci que pour la première fois, un écrivain qui n'a pas d'autre prétention que d'être un gastronome, vient de découvrir que la frontière qu'on a élevée entre l'abstrait et le concret est purement arbitraire. Il n'y a pas d'un côté l'âme et l'esprit et de l'autre des sens qui palpent, qui sentent et qui dégustent à l'insu des premiers, non. Et voilà la grande découverte de Brillat Savarin. Tout se rattache à l'âme humaine, y compris le soufflet au fromage. Eh bien, voyez-vous, Vatel avait déjà donné ses lettres de noblesse à la cuisine en se passant une épée à travers le corps parce que la marée était en retard. Brillat Savarin vient de donner les siennes à la gastronomie et à la gourmandise. Le vrai gourmand, c'est d'abord un artiste. Et j'irai même plus loin que Brillat Savarin. Je dirais que le gastronome est un homme qui recherche la perfection dans le seul domaine où on puisse espérer la rencontrer trois fois par jour. Pensez-vous en effet que trois fois par jour, vous puissiez rencontrer une œuvre d'art, un tableau, une sonate, un monument, qui vous donne un sentiment de plénitude, Personnellement, je n'ai jamais eu cette chance et je ne pense qu'elle doit être fort rare. Mais il n'est pas interdit de recevoir à son réveil une exquise tasse de café ou de thé accompagnée d'un merveilleux pain grillé et d'une confiture sublime. Ce même jour, à son déjeuner, on peut déguster une côtelette inoubliable accompagnée de pommes de terre divines. Et rien n'empêche celui qui a été ainsi comblé de faire encore le soir un dîner incomparable. Ainsi, on aura rencontré la perfection trois fois dans une seule journée. Eh bien, connaissez-vous un art qui puisse prétendre vous proposer le même programme et vous faire rencontrer la perfection trois fois par jour? Je n'en connais pas. Bria Savarin attendait beaucoup de la table et il avait raison. Il pensait qu'elle serait l'instrument de la réconciliation des peuples. Il était un peu en avance sur son époque. Il était un Européen sans le savoir. Mais au moment où cet Européen commençait à devenir célèbre, non pas à cause de ses opinions politiques, mais de ses dissertations sur le poisson, il vint un jour à la messe d'anniversaire de la mort de Louis XVI, car cet ex-républicain était naturellement un bon royaliste. Nous savons tous depuis qu'il y a beaucoup de républicains qui sont des royalistes et qui s'ignorent. Eh bien, il va à la messe anniversaire de la mort de Louis XVI, il attrape une fluxion de poitrine et il en meurt. Il en meurt et un plaisantin, il y a toujours des plaisantins dans ces circonstances, va l'enterrer en faisant un bon mot, il dira... Il méritait bien de mourir sous la Restauration. Eh bien, c'est l'eau de Louis XIV. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons beaucoup parlé de Bria Savarin. Et nous n'avons pas assez parlé des plaisirs de la table, pas assez à mon gré, pas assez au vôtre, j'en suis sûr, parce que si vous êtes venu ici, c'est peut-être que vous intéressez plus à la gourmandise qu'à Bria Savarin. Nous allons donc essayer ensemble de mettre sur pied un petit traité analytique des fonctions gustatives. Vous savez qu'un honorable évêque anglican qui vivait au siècle de Newton, le révérend Berkeley, avait institué une hiérarchie entre les sens. Tout au bas de l'échelle, il mettait la vue. Il mettait la vue sous prétexte que la vue ne nous rend compte des choses que très imparfaitement. La vue se borne, disait ce saint homme, à nous apporter des sensations de couleur. Mais elle est tout à fait incapable de nous dire si un objet est sphérique ou pointu, à moins que le toucher ne vienne à son secours. Je ne voudrais pas offenser la religion anglicane, bien entendu, mais je pense que cet évêque qui s'informait avec ses mains, ça devait être assez curieux quand il était dans le monde. Eh bien, voyez-vous, moi je soutiens tout le contraire. Je soutiens qu'en matière de gastronomie, l'œil est un merveilleux informateur et que non seulement il nous dit la couleur et le contour des choses, mais qu'il nous indique leur saveur. Quand on nous présente une dinde rôtie, nous savons le goût qu'elle aura, nous savons le goût qu'elle aura rien qu'à la voir. Nous pouvons l'identifier exactement comme un marin identifie un bateau à son gréement. Nous savons que si la peau est noirâtre, collée à la chair, la dinde sera comme une volaille de théâtre. Et si au contraire elle est bien dorée, boursouflée, alors elle sera délicieuse. Et nous savons qu'un beau roast beef doit avoir un aspect satiné, que l'entrecôte doit être persillée, que le veau doit avoir le teint laiteux du nourrisson, que la sole, quand elle est très fraîche, doit être blanche comme de la neige et que sur cette blancheur doit se dessiner son système circulatoire. Et si elle est grise, si elle est couleur d'ivoire, il ne faut pas y toucher. Autrefois, à Florence, il y avait un personnage qui avait pour mission de s'interposer entre le prince et le poison. C'était le goûteur. Eh bien, l'œil, c'est le goûteur. Il nous met en garde contre les nourritures nocives. Mais le plus souvent, Il est l'introducteur aux voluptés de la table, et c'est d'ailleurs pourquoi l'amateur de bon vin lève son verre devant ses yeux pour en jouir avec sa vue avant de le boire. L'œil joue un grand rôle dans les choses de la table. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous devons tenir compte de l'œil. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on compose un menu, on doit veiller à ce que ce menu ne soit pas monochrome. C'est ainsi qu'un déjeuner qui serait composé d'un brochet au beurre blanc, d'une blanquette et d'une crème à la vanille, même si tout cela était délicieux, ce serait un déjeuner mal composé parce qu'il serait tout blanc. Et ce ne serait pas mieux si l'on offrait une suite en rouge, rouget, bœuf en daube, salade de betterave, glace à la framboise. Non. Eh bien, voyez-vous, le diététicien se rencontre ici avec l'esthète, car si nous mangeons des tomates qui sont une mine de vitamine A, nous n'avons plus besoin de la carotène que nous apporteraient les carottes de la daube. Et si nous absorbons du foie de veau, il est déconseillé de manger ensuite de la mousse au chocolat qui est de la même couleur. Pourquoi ? Eh bien parce que le blanc d'œuf oblitère la biotène ou vitamine H qui fait la richesse du foie. Chaque gourmet qui a un peu le souci de sa santé sait qu'il lui faut chaque jour 4 mg de vitamine pour la formation de sa prothrombine, 50 d'acide ascorbique qu'il trouve dans les légumes, pour ne pas être affligé du scorbut des caporniers. Enfin, il nous faut 5000 unités de vitamine A pour maintenir en état nos tissus conjonctifs, un peu de B6 pour le métabolisme des nerfs et une pincée de tocophérol, ça c'est pour les messieurs. Eh bien, voyez-vous, nos devanciers, ils ne savaient rien de tout cela, naturellement, ils ne connaissaient pas les vitamines, ils ne connaissaient pas tout ça. Mais ils avaient quand même observé quelque chose. Ils avaient observé que certaines carences alimentaires entraînent des troubles organiques. Alors ils en avaient conclu que la meilleure façon de survivre, c'est de manger de tout. Si vous ouvrez le livre de cuisine que M. Jules Gouffet, officier de bouche du Jockey Club, a publié en 1884, ce n'est pas si vieux, vous y trouverez entre autres la recette de la grande matelote pour relever. La grande matelote, vous savez, ça bat presque la grande polonaise. Savez-vous ce qui entre dans sa confection? Je vais vous le dire. 6 carpes, 4 brochets moyens, 4 grosses anguilles, 12 laitances, 24 écrevisses, 100 champignons, 8 bouteilles de Bourgogne, 2 litres de mirepoix et 3 litres d'espagnol. En parlant de cette pièce qui peut rivaliser avec le son et lumière de Versailles, Gouffet écrit « J'ai vu cette belle matelote, exécutée par M. Loyer-Père pour les dîners que donnait à Rony Mme la Duchesse de Berry. Je n'oublierai jamais l'aspect que présentait cette pièce si réellement imposante quand elle sortait des cuisines. » Eh bien, on le croit volontiers que c'était imposant. Mais ce n'est plus de la cuisine d'aujourd'hui. Et il ne faut pas croire d'ailleurs que c'est l'automobile qui a tué cette cuisine-là. Il y a des gens qui vous disent ça, mais ça ne tient pas debout, car on peut aussi bien se régaler avec une grande matelote en descendant d'une 6 chevaux qu'en descendant d'une calèche ou d'une berline. Mais c'est de la cuisine qui est trop coûteuse, c'est de la cuisine qui demande une armée de marmitons et de sauciers, et les restaurateurs d'aujourd'hui n'ont pas le personnel nécessaire pour faire cette cuisine-là. Par conséquent, quand vous arriverez à l'étape, ne demandez pas une grande matelote, car vous risqueriez qu'on vous envoie vous faire cuire un œuf. Mais vous avez droit à une cuisine simple, bien faite, et où n'entrent que des produits de première qualité. Vous y avez droit au restaurant, et vous y avez droit aussi chez vous. Et mesdames, je crois que vous êtes en majorité dans cette salle, et c'est à vous que je m'adresse. Je voudrais vous rappeler le mythe d'Armide. Le mythe d'Armide qui mijotait chaque jour un nouvel enchantement, un nouveau sortilège pour retenir Renaud, son beau chevalier. Eh bien, le jardin des délices où l'on retient prisonnier celui qu'on aime, ce peut être aussi bien la table que l'alcôve ou le salon. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la femme américaine s'est mise à faire le complexe d'Armine. Parce qu'à force de servir à son époux de la cuisine préfabriquée, elle s'était dit qu'elle ne servait plus à rien. Et en effet, puisque n'importe qui peut ouvrir une boîte de conserve, le mari américain cessait de croire qu'il avait une femme remarquable. Mais l'industrie veillait. Maintenant, en Amérique, les mets que l'on vend en boîte exigent une foule de préparations. Il faut rajouter un peu de ceci, un petit peu de cela, il faut remettre sur le feu, il faut battre pendant 5 minutes, il faut veiller à ce que ça épaississe un petit peu, mais pas trop. Bref, pour préparer des conserves, c'est presque aussi compliqué que de faire de la vraie cuisine. Seulement, le mari américain peut dire maintenant fièrement « Ah, j'ai une femme qui fait le potage en boîte comme personne. » Renaud est content, Armide aussi. Eh bien, mesdames, vous qui êtes d'incomparables maîtresses de maison, si vous voulez continuer à régner sur l'homme de votre vie, n'oubliez pas que la cuisine fait aussi partie de votre royaume.
Vous venez d'entendre une conférence de l'Université des Annales, Bria Savarin et les plaisirs de la table, par James de Coquet.
Cette conférence a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mars 1964.
Yeah.